suis content d'avoir fait le magasin assez rapidement parce que j'ai remarqué que nous avons beaucoup de gens qui ont été sinistrés, qui sont venus au magasin, qui avaient besoin de se projeter eux aussi.
Et il est 7h14, on commence notre tour de la région de Liège inondation un an après à Chaudfontaine avec vous Thomas Gadisseux. Thomas, vous êtes avec votre premier invité dans un lieu symbolique et important pour la ville, le château des Thermes.
Oui, le spa, un des symboles aussi touristiques de cette ville. On est ici dans le parc, devant le château. Et à 3-4 mètres plus bas, il y a ce cours d'eau qui aujourd'hui est totalement calme. Gilbert Laudomé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur ici du château, des Thermes de Chaudfontaine. Expliquez-nous, il y a un an, devant nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ce parc-là est majestueux. Tout ça a été couvert de boue.
Absolument.
Quelle est l'image qui vous reste à l'esprit quand vous regardez ce parc presque ensoleillé ce matin?
Oui, il y avait quelques grands arbres qui sortaient de la pointe hors de l'eau. Tout le reste a été inondé de 2,80 m dans le parc. Hein. Donc c'était inouï, de montagne à montagne, de colline à colline, c'était plein d'eau, c'était un lac.
Vous avez repris l'activité, 2 mois et demi seulement d'activité, vous avez rouvert le 1er mai. Est-ce que les gens reviennent dans la région? Est-ce que les touristes reviennent ici au château à revisiter le coin?
Oui, absolument, nous sommes très contents de cela, les gens reviennent. Et ce que je dois dire aussi, c'est que mon personnel est resté. Absolument important pour justement recevoir les clients qui viennent maintenant. Donc nous sommes très heureux, ça fonctionne, les gens sont heureux de revenir et de découvrir le nouveau château des Thermes puisque tout a été ravagé.
C'était important aussi de relancer l'activité économique pour que ces vallées ne perdent pas l'ensemble de ses habitants et des emplois. Vous employez 80 personnes ici, tous sont restés en fait, vous avez su maintenir l'emploi.
Tout à fait, c'était exceptionnel. Les gens sont restés même pendant la période de fermeture puisque les gens sont venus nous aider pour déblayer parce qu'on a sorti 55 containers de 30 tonnes, quoi. C'est inouï la quantité de crasse qu'on a sorti.
On va rentrer avec vous, allez nous faire la visite.
Oui.
Donc on va rentrer à l'intérieur du château, on est à l'extérieur ici. On va rentrer pour nous montrer un peu les stigmates. Expliquez-nous, il y a encore des traces en fait visibles,
oui.
On a rénové, mais il y a encore des éléments que vous n'avez pas su simplement effacer. Expliquez-nous.
Non, absolument. Il y a la pierre bleue ancienne a été mordue par l'eau. Et on le voit absolument les stigmates ici.
Donc on arrive au bord de la piscine, hein, tout simplement à l'intérieur ici.
Donc je mesure 1,82 m, vous venez le niveau 1,82 m.
Et donc sur le pilastre en pierre bleue, là, il y a tout simplement encore les traces.
Et elles sont restées là, et elles resteront là,
comment,
dans le souvenir.
Comment vous avez procédé justement à la reconstruction? Comment vous avez su mobiliser les fonds, les assurances, les employés, les artisans en si peu de temps, entre guillemets, pour redresser tout un bâtiment et toute une structure comme ça?
Oui, donc l'année dernière, nous avons nettoyé, asséché. Assécher, c'était le premier travail à faire et arracher tout ce qui était pourri et en plein d'eau. Et l'année après, enfin cette année, on a commencé à construire pour ouvrir le 1er mai. Alors les artisans ont été merveilleux puisqu'ils ont tous répondu présent. Tous, c'est tous des gens que je connais bien sûr, des gens de la région de Malmedy, Saint-Rémy, etc. Ils sont tous arrivés et ils m'ont vraiment soutenu à mort. Le personnel était là aussi présent pour nettoyer, en tout cas les 3-4 premiers. C'était absolument... Vous n'imaginez pas le gigantisme de la crasse qu'avait ici.
Gilbert Laudomé, vous êtes directeur d'un symbole ici dans la région. Et pourtant, vous m'expliquez là avant, je dirais que c'est compliqué, même pour vous, même une structure pour le château des Thermes, de mobiliser les assurances.
C'est
quelque chose qu'on entend partout dans la vallée, mais même pour des grosses structures aussi, ça coule pas de source.
Ah non, absolument pas. Tout le monde... toutes les assurances sont retirées. C'est incroyable. Vous savez que l'assurance nous a jeté dehors aussi. Pour le 13 juillet, j'avais plus d'assurance. Donc j'ai retrouvé une nouvelle compagnie, mais c'était incroyable. Comme les assurances ont été raides, alors ils devaient être souples ici. Ils ont été très raides. Et je parle pour moi, mais je parle surtout pour les petites personnes qui ont des petites maisons ici à gauche et à droite, qui n'avaient pas peut-être ce pouvoir financier de dire, à un moment donné, on en attend.
Un an plus tard, c'est quoi le mot qui vous reste à l'esprit?
Fâché. Rage. On savait très bien, au début de, avant le mercredi du 14 juillet, on savait très bien qu'il allait pleuvoir très fort. On savait qu'il y aurait une inondation. Les barrages, on a laissé remplir les barrages. Il n'avait qu'à lâcher l'eau avant. L'Europe nous avait prévenu le lundi, le dimanche, qu'il y aurait des fortes pluies. Ils n'ont rien fait. Et alors, au dernier moment, quand le barrage est libéré, ils ont dû lâcher le barrage. Et c'est ça qui a englouti toute la vallée.
Et c'est ces vagues que vous expliquez qui ont provoqué ici des dégâts. On sent en tout cas votre colère. Un an plus tard, une colère qui est partagée encore par de nombreux habitants dans cette vallée. Mais votre activité a repris. C'est aussi un signe d'espoir qu'on va souligner. Et on va aussi continuer de décortiquer, Marie, comment une commune comme Chaudfontaine ici se redresse, doit reconstruire, démolir des bâtiments. Comment on gère du coup une commune comme ça à la croisée de tous ces défis? On va en parler dans quelques instants avec le bourgmestre Daniel Baclaine qui va nous attendre dans un autre coin de la ville.
Avec votre invité.
Exactement, cette école communale qui est évidemment désertée de ses élèves hein, pendant les vacances, mais pas désertée de tous les occupants, puisque la commune a pris ici ses quartiers quelque part, en tout cas certains services de la commune, puisque les bâtiments de la commune ont été dévastés dans ce centre de trop. Je suis avec Étienne Vendy. Bonjour Étienne Vendy.
Bonjour.
Alors vous êtes président du CPS de Trot et vous êtes aussi psychologue. On s'était rencontrés il y a à peu près un an, hein, en septembre, quand on était venu ici. Et j'aimerais d'abord peut-être vous interroger avec votre casquette de psychologue, mais aussi de fin connaisseur de la population de cette commune. C'est quoi l'état d'esprit, Étienne Vendy, alors que demain, des commémorations sont prévues. Elles sont prévues avec le roi Achéné, mais il y a également des choses prévues à Trot.
Oui, donc nos habitants restent évidemment très choqués par ce qui s'est passé il y a un an. Je rappelle, la moitié de la population a subi quand même un traumatisme important. Alors, les commémorations, nous pensons qu'il faut les faire sobres et si possible en silence, pour que chacun, chaque habitant, chaque personne qui a donné un coup de main ici sur la commune puisse y mettre ce qu'il veut. Ça va de la colère à la tristesse, la grande peine hein, pour les personnes qui ont perdu des êtres chers. Voilà, je pense qu'il faut plutôt du silence de la part des autorités et que ce silence soit rempli, si je peux dire, qu'il soit assourdissant de la peine et peut-être aussi des espoirs de notre population.
Et on sent donc qu'on est un petit peu entre colère et espoir, ou tristesse et espoir un an après.
Mais oui, donc on est quand même dans la reconstruction psychique hein, pour les habitants. Et donc certains s'en sortent bien, d'autres restent avec d'énormes colères et ma foi, elle doit pouvoir s'exprimer, oui.
Alors il y a quand même beaucoup de choses qui ont été réhabilitées ici, réparées. Je pense presque 90%, j'ai vu un chiffre circuler de ce qui avait été détruit ou abîmé a été réparé. Il y a encore évidemment des stigmates de ces inondations un petit peu partout dans la commune. Il y a à peu près un an, vous nous disiez, avec d'autres habitants d'ailleurs de cette commune, à Trot, la crainte de voir peut-être la vie un peu disparaître dans la vallée, que les gens s'en aillent, que ce qu'on a connu avant comme vie locale, etc., ben, disparaisse. Un an après, est-ce qu'elle est revenue, cette vie locale ?
Bon, mais nous avons perdu des habitants, hein. Donc on pense que nous avons 500 habitants en moins pour le moment. Il y a un flux, certains rentrent, d'autres repartent, mais c'est ça notre objectif, c'est de remettre une vie sociale, une vie collective dans la commune. On s'y emploie avec des projets, mais non, la vie n'a pas repris tout à fait comme avant. Vous avez dit tout à l'heure 90% de la commune reconstruite, là je pense que c'est beaucoup d'optimisme. 70% des maisons ont été refaites, oui. Mais pour tout ce qui est les bâtiments publics, les halls de sport, l'administration communale, là, le chemin sera encore très très long.
Alors, en parlant d'espoir et de projets, vous avez des projets nouveaux. Alors, vous me disiez, pour regarder vers l'avenir, par exemple, une crèche. Il n'y a pas de crèche ici à Trot. Pourtant, il y a beaucoup d'habitants qui ont dû être relogés. Même aussi un projet de maraîchage, par exemple. C'est ça aussi, c'est faire des choses que même vous n'imaginiez pas faire avant, mais que vous allez quand même faire.
Oui, on va le faire. Nous pensons qu'il faut des signes d'espoir, il faut sortir du court terme. Hein. La crise, on a essayé de la gérer du mieux que nous pouvions, mais le CPS se doit d'aller de l'avant et d'avoir des projets long terme. Donc ici, un projet de crèche, de halte-garderie, donc un projet collectif hein, où les parents peuvent venir avec leur enfant, prendre un peu de bon temps. Et puis ce projet de maraîchage, proche de la nature, montrer que cette nature, ben, il y a moyen de la réhabiliter. Et ce qui serait extraordinaire, c'est que dans 2 ans, vous reveniez et que les légumes produits dans ce maraîchage permettent aux enfants de la commune d'avoir un bol de soupe et des légumes et des fruits. Ce serait magnifique.
Merci, Étienne Vendy. On reviendra dans 2 ans.
Vous êtes avec 2 invités et pour commencer, une pharmacienne. Les conséquences des inondations, elle les ressent encore chaque jour.
Oui, effectivement, puisque dans sa pharmacie, Nathalie, elle habite à l'étage, mais dans son commerce, eh bien, le commerce n'est toujours pas ouvert. Et pour des questions d'hydrocarbures, figurez-vous qu'il y a un an, la cuve à mazout s'est renversée. Alors Nathalie, cette cuve à mazout, un an après, elle vous pose toujours des problèmes et finalement, elle vous empêche de reprendre votre vie quotidienne.
Oui, finalement, enfin, on se serait dit il y a un an qu'on en avait pour quelques semaines d'odeur de citerne à mazout, sauf que bon, malheureusement, l'odeur est toujours bien présente malgré plusieurs interventions. Elle a pour forcément enlevé la cuve problématique du nettoyage. Une société spécialisée qui est venue à plusieurs reprises essayer de consommer les restes d'hydrocarbures via le feu et les chalumeaux. Et voilà, force est de constater que malgré tout, l'odeur est encore là et on ne sait toujours pas combien de temps.
Donc votre commerce n'est plus accessible, mais vous vivez toujours à l'étage.
Oui, l'étage, en fait, à titre personnel, j'ai pas été directement très fort touchée par les inondations, parce que l'étage n'a rien eu. Et alors, bon, effectivement, on est obligé d'aérer très, très régulièrement, sinon l'odeur a quand même tendance à un peu s'infiltrer, quoi.
Vous auriez imaginé, il y a quelques années, vivre dans ces conditions-là? Parce que finalement, on a l'impression qu'on s'habitue.
Ben, exactement. Moi, en fait, je ne la sens plus, à l'odeur. Donc, je ne me sens pas être dans un logement insalubre, ni rien que ce soit. Mais c'est vrai qu'on, voilà, il y a un an, on ne pensait vraiment pas que cette situation perdurerait ainsi, quoi.
Merci, Nathalie. Vous voyez, le courage, en fait, des habitants, de tous ceux qui reconstruisent, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pointer du doigt à l'occasion de cette commémoration. Et puis, Cédric Théâtre m'a rejoint. Lui, il est assureur, mais il est assureur, il est habitant, et il a aussi subi les inondations. En fait, Cédric, vous, c'était un peu triple peine, ces inondations.
Oui, c'est triple peine, puisque je suis touché à titre personnel à mon privé, à Paul Or, je suis touché à mon bureau à Teux, et puis les centaines de dossiers sinistres à gérer. Alors, je vois ça plutôt comme une opportunité, puisque j'ai pu directement vivre la même chose que les sinistrés et comprendre effectivement leur désarroi.
Est-ce que vos dossiers d'assurance sont aujourd'hui réglés? Parce qu'on parle beaucoup de dossiers non réglés, de difficultés. Est-ce que c'est en ordre?
Alors, la vraie réponse est non. Tout n'est pas en ordre, tout n'est pas terminé. On a un taux de finalisation de dossiers aux alentours de 97%. Donc, il nous reste effectivement 7-8 dossiers qui coincent un petit peu pour des raisons diverses. Et on met évidemment les bouchées doubles pour pouvoir terminer ces dossiers au plus vite, parce qu'il faut tourner la page aussi pour les sinistrés.
Alors, tourner la page, ce sera ma dernière question. Là, c'est les 1 an de ces événements. Comment vous y vivez ?
Oh, c'est le bilan, je dirais, est mitigé. Le sentiment est mitigé. Effectivement, on a envie de se rappeler, on a envie de commémorer. Comme je dis, c'est un anniversaire à ne pas fêter, mais effectivement, on ressent quand même le besoin d'avoir des symboles autour de cette date qui restera évidemment pour la plupart gravée et qu'il sera effectivement très difficile d'effacer.
Voilà, Marie, sur la place du